découvrant le tombeau vide. Et on s'est interrogé pour savoir si foi et peur étaient compatibles. Avec le texte de l'évangile de Jean, nous voici le même jour, le soir cette fois-ci, puis une semaine plus tard, dans la deuxième partie de notre récit. Alors imaginons la scène. Les disciples, le soir d'une résurrection dont ils n'ont pas vraiment pris la mesure encore, ont peur. Peur d'être arrêtés à leur tour et de subir le même sort que leur maître. Peur aussi, du moins au départ, de ce fantôme qui les rejoint malgré la porte verrouillée. Car ce franchissement d'une porte verrouillée, cela ressemble à de la magie. C'est un peu obscur, c'est un peu inquiétant. Mais là n'est pas l'important. L'important, c'est que le Christ se rend présent parmi eux, parmi ses amis, malgré ce verrou. Le miracle, il est dans le sens symbolique de ce franchissement. Jésus ne se laisse pas arrêter par une porte fermée. Il rejoint ses disciples, reclus dans leur peur des autorités juives, comme il nous rejoint nous aussi, au cœur de nos propres peurs. Une nouvelle fois, Jésus fait le premier pas. Il vient nous chercher dans les replis les plus cachés pour nous faire sortir, nous redonner courage et nous ramener à la foi. Sa résurrection, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est un début, un renouveau. Les disciples, ainsi enfermés, sont morts. Jésus vient les relever. Comment ? Par quelques simples paroles. La première d'entre elles, que la paix soit avec vous. Ce « que la paix soit avec vous » est répété, vous l'avez entendu, 3 fois dans notre texte. Cette répétition montre bien qu'il ne s'agit pas d'une simple manière de saluer, d'une formule de politesse, un peu formelle justement, et qui a perdu de son sens. Cette répétition souligne toute l'intention que Jésus met dans ses mots, des mots de bénédiction, des mots pour faire du bien, en quelque sorte. Jésus veut en effet apaiser. Il sait le tumulte intérieur qui agite ses disciples et il veut les rendre disponibles à l'écoute, car celui qui a peur n'a pas d'oreille. Il sait aussi que cette paix est le seul moyen de rendre la confiance. Jésus, en donnant sa paix, montre qu'il accepte pleinement ses disciples, tels qu'ils sont, avec leur médiocrité, avec leur pusillanimité. Et il les délivre de toutes sortes de peurs, de toutes ces peurs qui les enferment. Peur du risque de se reconnaître disciples de Jésus, hors de leur petit cercle. Peur des reproches possibles de ce maître qu'ils ont tous plus ou moins trahi. Peur de ne pas être à la hauteur. Cette paix apportée est un pardon qui peut leur permettre d'avoir à leur tour la force de pardonner, de se remettre en route. Jésus souffle sur eux le Saint-Esprit, ce souffle d'esprit est le souffle d'une vie nouvelle. Mais les disciples, que comprennent-ils de cette paix? Que comprennent-ils de la résurrection? Eh bien, dans l'immédiat, pas grand-chose. Et preuve en est que 8 jours plus tard, deuxième partie de notre récit, ils sont de nouveau là et toujours verrouillés dans la même maison. Et le pasteur James Woody dit de façon imagée que les paroles de Jésus ont été pour eux comme de l'eau glissant sur les plumes d'un canard. Les disciples sont comme ces baptisés qui, même mouillé, reste sec, désespérément sec. Mais ne leur jetons pas la pierre. La foi a parfois besoin de temps pour faire son chemin. Mais ce que va nous montrer la suite du texte, c'est que la foi vient aussi avec la recherche et avec le doute. Thomas, absent lors de la première apparition du Christ le soir de Pâques, Thomas, 8 jours plus tard, lors de la deuxième apparition, va faire bouger les lignes. Or, Thomas, ce n'est pas le disciple le plus en odeur de sainteté. Toute une tradition ecclésiale s'est attachée à en faire le mauvais disciple, un homme de peu de foi. Lui dont l'insistance à vouloir vérifier par la vue et le toucher la marque des clous sur le corps de Jésus manifeste une incrédulité vraiment coupable et presque une attitude de défi. Si je ne vois pas, si je ne mets pas, défi, défiance, méfiance, perte de foi, de confiance. Souvent d'ailleurs, l'iconographie religieuse, je pense en particulier à un tableau du Caravage, n'a retenu que ce moment dramatique où Thomas place sa main dans la chair martyrisée du Christ. Oui, sauf que le texte ne nous dit absolument pas que Thomas fasse ce geste, même si Jésus l'y invite. Car Jésus l'y invite. Jésus répond au souhait exprimé par Thomas. Et cette invitation du Christ, qui reprend exactement les paroles de son disciple et lui propose de faire la vérification souhaitée, cette invitation du Christ légitime en quelque sorte le doute de Thomas. Aucun reproche de la part de Jésus. Et puis, d'ailleurs, pourquoi faire un reproche à Thomas ? Ce qu'il désire. Les disciples, les autres disciples l'ont eu le soir de Pâques. Vous avez entendu dans le texte que lors de sa première apparition, le Christ leur a montré ses plaies. Alors, nous n'avons pas à condamner Thomas de cette demande. Thomas ne veut pas croire passivement, mais veut voir. Faire par lui-même la vérification de ce qu'il a entendu. Thomas, c'est celui qui, dans le groupe des disciples, se manifeste souvent par son désir de comprendre. On dirait aujourd'hui qu'il est en recherche. C'est lui qui, alors que les autres disciples se sont enfermés dans la maison le soir de Pâques, s'est risqué au dehors. Et sa volonté de voir et de juger personnellement, sans prendre pour argent comptant les « on dit », sa volonté de mettre sa foi à l'épreuve de sa vie est fidèle au message du Christ et plutôt sympathique à notre regard de protestant. Et le doute de Thomas est fécond. Preuve en est sa magnifique confession de foi « Mon Seigneur et mon Dieu », confession aussi entière que le doute qui l'a précédé. L'élan de cette confession de foi si spontanée résulte en fait de cette volonté de recherche de Thomas et vient mettre fin à son désespoir, car Thomas désire profondément que l'espérance qu'il avait habitée soit vraie. Tout ce qu'il a vu et espéré pendant les 3 ans de compagnonnage avec Jésus, prend soudain sens dans la reconnaissance du Christ ressuscité. L'élan de son exclamation est la marque d'un vrai tournant. Thomas vient de rencontrer la vie. Une vie qui ne nie pas la mort, mais en conserve les traces. Une vie renouvelée et transformée par la parole de paix. Alors voilà, tandis que les autres disciples demeurent figés dans leur peur, heureux de l'apparition de Jésus, mais sourd à ses paroles, Thomas, parce qu'il est en recherche, lui, comprend. Face à la résurrection, nous sommes libres, nous aussi, d'entendre ou de nous fermer, libres de croire un peu pour nous-mêmes ou d'entrer pleinement dans la reconnaissance et de témoigner. Mais croire en Jésus ressuscité ne peut pas nous laisser assis sur nos bancs. La foi est un chemin sur lequel on avance de manière parfois chaotique, avec des doutes, avec des interrogations, mais toujours avec Jésus qui nous rejoint. Écoutons cette voix qui dit à chacun de nous « La paix soit avec vous ». C'est une voix de fin silence, comme celle qui, sur l'Horeb, a révélé à Élie la présence du Dieu caché. Imperceptible grâce qui nous dit que la mort n'a pas triomphé. Bienveillant, Jésus s'avance vers nous avec sa paix et le pardon de celui qui aime. Il nous rassérène et nous invite à la confiance qui nous remet en route. Amen.